Ouais, ça va. Je fais juste un petit test. C'est bon? Ok. D'accord. Donc, ben, tout d'abord, merci pour ces encouragements. Je pense que c'est bien de commencer comme ça en étant encouragé. Ça fait du bien. Donc, le thème de mon message, c'est très simple. C'est ne nous laissons pas étouffer. Et vous allez très vite comprendre en fait où je veux en venir parce que je vais vous raconter le contexte dans lequel j'ai écrit ce message. Et en fait, il y a de cela une semaine, au travail, en fait, on a vécu tous ensemble des jours compliqués avec mes collègues parce qu'on a appris une mauvaise nouvelle. Et en fait, en apprenant cette mauvaise nouvelle, forcément, ça crée des tumultes dans notre cœur. On est pas bien. On se demande ce qui va se passer pour la société, etc. Puis après, le vendredi soir, en plus, pour clôturer, je discute avec un de mes collègues et il était vraiment démoralisant tout ce qu'il me disait. En fait, il y croyait plus dans la société, il y croyait plus par rapport à ce qui allait se passer, à une stratégie qui est mise en place dans la société. Et vous savez, parfois, en fait, on éprouve ce sentiment, en fait, que quoi qu'on fasse, quoi qu'on vive, en fait, quoi qu'on, n'importe quel événement qui pourrait se passer dans notre vie, c'est stérile. En fait, il n'y a rien derrière, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se produit. Et on apprend des mauvaises nouvelles, il y a des choses de notre vie qui viennent étouffer notre cœur. Et après, en fait, je me rends à l'intercession. Et pendant l'intercession, en fait, je disais à Dieu, mais rafraîchis-moi, en fait, j'ai besoin d'être rafraîchie par toi, j'ai besoin que tu touches mon cœur, parce que, oui, je suis là pendant ce moment de prière, mais mon cœur, en fait, il est sec. Et quand je priais, quand je faisais cette prière, en fait, spirituellement, je savais que Dieu était capable de me rafraîchir, mais en même temps, j'avais ce combat dans mon cœur où j'avais l'impression que je pourrais être sèche, pendant des années, en fait, comme si cette sécheresse que j'éprouvais le temps d'un instant, elle pourrait durer, durer, durer et encore durer. Et pourtant, tout va très bien dans ma vie privée. C'était juste une nouvelle, en fait, quelque chose qui m'a tracassée la semaine, qui m'a fait mal pour une personne de mon travail et j'étais pas bien. Et le fait d'être pas bien, hop, ça étouffe, en fait, ça assèche. Et donc, après, l'intercession se passe, on passe un bon moment, justement, où on prie pour être rafraîchi. Et après, la nuit, donc du vendredi au samedi, je vais faire un rêve, en fait, particulier. Et je vais vous livrer ce rêve en partie. Donc, en fait, dans mon rêve, je vois une femme. Et cette femme, elle a un besoin physique. Et après, en fait, je me rends compte aussi qu'elle a un besoin spirituel. Et donc, je suis là, dans l'église, je vois cette femme. Et en fait, je m'avance avec elle et je me mets à prier pour elle. Et donc, je prie et on sent quand la prière est efficace. Mais au moment, en fait, où je veux dire au nom de Jésus, il y a quelque chose qui vient et qui m'empêche de le dire. Je ne peux plus dire au nom de Jésus. Je suis complètement, ma bouche est figée. En fait, je suis là. Alors, dans mon rêve, je vois Alex, je vois Aurélie, je vois Antonia et je les regarde et c'est comme si que dans mes yeux, je leur suppliais de dire au nom de Jésus. Genre, moi, je ne peux plus le dire, mais vous, dites-le, en fait. Dites-le à ma place. Alors, je sais pas pour vous, mais je pense que quand je vous parle de ça, je pense que je ne suis pas la seule à vivre ce genre d'étouffement, en fait. Et en tout cas, je l'espère, parce que sinon, je peux faire appel à ma sœur qui est psychologue et j'aurai quelques problèmes à régler. Et donc, je suis convaincue qu'on passe tous par là, en fait. On a tous des moments dans notre vie où on a la sensation d'étouffer par quelque chose. On a la sensation que notre cœur est complètement sec. Et je voudrais m'attarder dans un premier temps sur ça, sur les étouffements de la vie, parce qu'il y en a une multitude. Alors, les points que je vais donner, c'est une liste qui est non exhaustive. On peut en rajouter. Donc, qu'est-ce qui peut venir étouffer notre cœur? Donc forcément, je vais commencer par des choses qui sont dures. Par exemple, les deuils, la douleur de perdre quelqu'un, forcément, ça fait mal. On est endeuillé et là, quand on est dans le deuil, on a du mal à regarder vers Jésus. Généralement, on va regarder tête en bas, on est miné, ça fait mal. Il y a les maladies, les accidents qui vont changer notre vie à tout jamais. Tout allait bien et l'espace d'une nouvelle, l'espace, le moment de l'accident, hop, tout s'envole, tout part, tout change. Après, ça peut être aussi les agressions. les agressions verbales, les agressions physiques, qui là aussi peuvent marquer et choquer des vies, mais pendant tout, enfin, toute notre vie, en fait, on est marqué par une agression verbale ou physique. Après, ça peut être aussi, par exemple, les doutes. Quand on est en proie aux doutes, quand on ne sait pas, on n'arrive pas à se décider. Moi, j'ai été experte en la matière, je sais ce que le doute, où le doute peut vous amener, et le doute peut vous amener dans un état de mort, en fait. Il y a aussi les espoirs vains en tout genre. Je ne sais pas, mais je pense que c'est pareil, on est tous passés par là. Les espérances vaines, on espère tous des choses, et parfois on a la sensation qu'elles vont arriver à point, et hop, on se fait ravir notre espérance. Alors moi, pour mon mariage, ben, j'ai espéré qu'il ne pleuve pas. On avait un bel endroit, on avait un beau jardin, et alors il a fait un grand soleil ce jour-là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et il a plu. Et parfois, j'en parle encore hier, il faisait beau, et je dis à Claude, tu vois, aujourd'hui il fait beau. Et moi, mon mariage, il pleuvait. Pourtant, j'ai eu un beau mariage, mais parfois j'y pense, et mon espérance est restée vaine. Par contre, j'avais l'espérance de me marier, et je me suis mariée. Mais sous la pluie. Après, on a aussi tout ce qui touche au social, en fait. On a, par exemple, les pertes d'emploi. Et là, c'est pareil, on sait à quel point aujourd'hui, on y fait tous face dans nos familles. Voilà, ça touche tout le monde. Et peu importe aussi notre niveau, on peut être ouvrier, on peut faire partie de la direction d'une société. Bah voilà, du jour au lendemain, on peut perdre notre emploi. Ça va même encore plus vite parfois pour des gens de direction parce qu'ils n'ont pas de préavis et en 2-3 semaines, ils sont sur le bord du chemin, ils sont dégagés. Et c'est la vie, finalement, c'est comme ça parce que le monde tourne à 100 à l'heure et il faut aller vite et il faut remplacer vite et on a besoin de faire du bénéfice et on est dans ce système-là. Après, il y a tout ça, les difficultés financières, les dettes qui peuvent vous ravir les plus beaux projets que vous aviez pour la vie, qui peuvent ravir l'héritage que vous aviez construit pour vos enfants. Après, je pointe du doigt également la société de consommation dans laquelle on vit. Et là, c'est pareil, on y fait tous face, on est dans cette société-là. Et cette société de consommation engendre en nous, peut faire naître en nous un sentiment d'insatisfaction. On n'en a jamais assez. On veut toujours plus parfois. Alors, je vais faire le schéma vraiment très basique. Les filles, ça va être toujours les belles chaussures, les belles robes. On en veut toujours plus. On veut toujours être coquette. Et les garçons, ça va être la belle voiture. Toujours la meilleure, la plus belle. Et c'est comme ça, en fait, on vit dans ce monde. C'est le système qui est fait comme ça. On aime bien être bien présentable, on être bien dans nos pompes, être bien avec notre jolie robe, avec notre belle voiture, parce qu'on a besoin de satisfaire quelque chose en nous. Et après, je pointe aussi au niveau de la société, tout simplement la vitesse à laquelle on vit. Nos agendas, ils sont tout le temps bookés, on n'a jamais le temps de se voir, on n'a jamais le temps de se poser, on se lève le matin, on court, on va au travail, on s'occupe des enfants. J'en ai pas, mais je vois très bien autour de moi. Voilà, ça va à 100 à l'heure et on n'a jamais le temps de se poser. Et avec tout ça, on est étouffé. Je parlais des drames, mais parfois, on peut avoir une semaine où tout se passe bien. On arrive à la fin de la semaine, on est mort parce qu'on a tellement donné la semaine qu'on est épuisé. Et alors, moi, je parle d'étouffement, je nomme ça les étouffements, mais pour certains, je sais que c'est des véritables traversées du désert. Vous êtes dans le désert, vous marchez, et alors ça ne s'arrête pas, c'est tout le temps aride. Et moi, je l'ai appelé aussi pour ce message-là, tous ces étouffements, je les appelle le rouleau compresseur de notre vie. En fait, ce rouleau compresseur, ça vient, ça presse notre cœur, ça presse. Et au niveau médical, on pourrait appeler ce pressement de notre cœur une péricardite. Alors, je regardais sur Internet, et en fait, la péricardite, c'est donc on a notre cœur, c'est une cavité, il y a des cavités, et autour, il y a une membrane. On peut appeler également cette membrane, on peut l'appeler l'enveloppe de notre cœur. Et en fait, si l'enveloppe est inflammée, ça presse sur le cœur. Et un des symptômes, c'est cette sensation d'étouffement, en fait. On suffoque, on n'est pas bien. Et on passe tous dans notre vie par cette maladie-là, la péricardite, on va dire. Et c'est comme ça, en fait, les choses de la vie, on est humain, les choses viennent et nous étouffent, nous oppressent, nous pressent. Et ce rouleau compresseur, et c'est ça le pire en plus, c'est qu'on est là, on vit, et le rouleau compresseur, compresseur passe, et quand le rouleau compresseur passe, il ne vous demande pas si vous êtes prêt à vivre telle situation. Il ne vous demande pas si vous êtes prêt à vivre tel événement. Il ne vous demande pas si vous allez savoir vous remettre aussi de ces événements-là. Si vous êtes capable de vivre au rythme dans lequel on est obligé de vivre aujourd'hui, dans lequel on est obligé de rendre notre travail. Par exemple, moi, je vais au travail, on doit faire une productivité, on a une rentabilité par mission. Et on ne nous demande pas si on est capable, on peut être très intelligent, mais est-ce qu'on est capable de vivre à cette vitesse-là? Et donc, tout ça vient nous compresser, vient nous faire mal. Et face à ce rouleau compresseur, il n'y a qu'un seul remède. Et le seul remède, c'est Jésus. Et c'est ce remède-là en plus, il est à perpétuité. C'est Jésus à tout jamais. Et là, je vais passer à mon deuxième point. Et on va prendre le passage de Jésus avec la Samaritaine. Donc c'est Jean 4, versets 7 à 15. Donc, avant de commencer à lire les passages, je vais juste vous raconter brièvement le contexte. Donc, en fait, Jésus était avec ses disciples en Judée. Ils vont retourner en Galilée. Et normalement, en fait, ils ne sont pas obligés de passer par la Samarie. Mais à mon avis, c'était un coup de Jésus. Il avait envie d'aller faire quelque chose là-bas. Et donc, ils s'arrêtent en Samarie. Et la Samarie, en fait, c'est une région. Et dans cette région, il y a une ville qui est nommée Sichar. Et dans cette ville-là se trouve le puits de Jacob. Et Jésus va aller s'asseoir sur ce puits-là et il attend les disciples qui sont partis acheter des choses parce que voilà, ils sont fatigués du voyage, ils ont besoin de se rassasier. Donc là, on va lire maintenant. Donc une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. » D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » De ce passage, moi, j'en ai retiré plusieurs points. Tout d'abord, je ne sais pas si vous remarquez la différence de discours. Alors, il y a la Samaritaine qui est très pratique, elle vient puiser son eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Elle lui rétorque, « Pourquoi tu me parles? On n'a pas le droit de se parler. » Et Jésus, après... Il répond même pas en fait à sa remarque, il dit « Mais si tu savais qui est en train de te parler ?» Et donc là, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Jésus, il est comme ça avec nous en fait. Nous, on est très pratiques, on va poser des questions très pratiques à Jésus, mais lui en fait, il veut attirer nos regards vers ce qui vient d'en haut. Jésus parle de choses concrètes, la Samaritaine, elle parle de choses concrètes, elle parle de l'eau. Elle lui dit que il peut pas puiser cette eau. Jésus lui dit moi je peux te donner de l'eau. Ouais mais t'as pas de seau. Comment tu vas faire pour prendre l'eau? Il y a un puits, il est profond. Mais c'est pratique pour la Samaritaine. Mais Jésus il est en train de lui parler d'autre chose. Il est en train de lui parler de quelque chose qui vient des cieux. Et nous dans la vie tous les jours, dans nos cas très pratiques, très concrets, Jésus il veut faire la même chose. Il veut nous parler des choses qui viennent de là-haut pour nos choses très concrètes. Et finalement, ça fait une collision. Ça fait une collision entre le monde spirituel et le monde dans lequel nous vivons. On est ici-bas. Et il y a cette collision, cette rencontre, Jésus, la Samaritaine, l'eau vive qui vient de là-haut et l'eau terrestre, l'eau qu'on a besoin pour notre soif naturelle. Ensuite, je soulève un deuxième point. C'est que tout au long du passage, enfin, on voit en fait l'atmosphère qui se dégage et l'atmosphère d'amour et d'allégresse. En fait, on ne l'a pas lu, mais il faut savoir que dans la suite du passage, Jésus, en fait, il lui révèle l'état de sa vie. Cette femme a été mariée 5 fois. Elle est avec un 6e homme qui n'est pas son mari. Donc, il y a 2 situations où je me dis, Jésus, il était proche d'elle, mais elle devait se sentir vraiment étrange. Tout d'abord, elle lui fait cette remarque, le fait que Jésus juif, elle samaritaine, ils n'avaient pas le droit de se parler. Alors je me suis interrogée sur la raison pour laquelle ils n'avaient pas le droit de se parler. Et là, il faut remonter à la déportation du peuple juif. Pendant la déportation, donc il y a une partie des juifs en fait qui ont été déportés, ceux qui allaient servir pour les rois étrangers. Et finalement, il y a certains juifs qui sont restés dans les régions. Mais comme ils étaient sous domination des autres peuples, il y a eu des mélanges entre les races. Il y a eu les mélanges entre, on va dire, les gentils et les juifs. Et en Samarie, il y avait des juifs qui étaient restés là, mais qui se sont mélangés avec d'autres peuples. Ce qui fait que lorsque la déportation, lorsqu'ils ont pu sortir, lorsqu'il y a eu l'exil et qu'ils sont revenus sur leur terre, ces juifs-là, en fait, se considéraient, eux, extrêmement purs, vraiment de souche pure. Par contre, les juifs qui s'étaient mélangés avec les autres nations, avec les autres peuples, ben, ils étaient complètement mis de côté. En fait, pour les juifs qui avaient été déportés, ils considéraient vraiment toutes ces personnes qui s'étaient mélangées avec leurs enfants, etc., comme une race impure, en fait, des gens à qui il ne fallait pas parler. La Bible dit même qu'il n'y avait pas de commerce avec eux. Mais Jésus, lui, il n'y en a rien à faire, en fait, des « on dit » et donc des « qu'en dira-t-on ». Il est assis sur le puits, la Samaritaine vient et Jésus lui parle. Et ça devait extrêmement choquer. En plus, c'était Jésus, c'était pas n'importe qui. Et les gens qui étaient très religieux, déjà, ne s'adressaient pas à une femme. Les pharisiens ne s'arrêtaient pas, ne parlaient pas, par exemple, à une femme. Les hommes de religion ne parlaient pas aux femmes. Et en plus, les juifs ne parlaient pas aux samaritains. Et après, il y a l'état de son cœur à la samaritaine. Jésus, il est en train de lui dire, et il lui dit, va et appelle ton mari. Elle dit, ben c'est pas mon mari. Il dit, bah oui, il fait, je sais, t'en as déjà eu 5, mais celui avec qui t'es, c'est pas ton mari. Mais moi, si j'avais été à ce puits, si Jésus est en train de me parler de l'eau qui vient de là-haut et que je comprends rien, parce que moi, je lui parle de l'eau naturelle, qu'en plus, il révèle quelque chose de ma vie qui est pas très bien, bah, je prends les jambes à mon cou, j'y mêle toutes tes affaires, je me mêle des miennes. Mais en fait, la Samaritaine, elle reste là, donc il devait se passer quelque chose. Jésus lui révèle quelque chose. Il y a ce contexte historique sur le fait qu'ils ne peuvent pas se parler, mais ils sont là, ils sont bien, et la Samaritaine, elle reste au pied de Jésus, elle reste avec Jésus. Et elle lui parle, après ils vont parler de l'adoration, elle lui demande où est-ce qu'il faut adorer, etc. Donc c'est qu'elle se sentait bien. Et elle se sent tellement bien qu'elle va en oublier sa cruche et qu'elle va aller appeler les gens de sa ville et elle va leur dire « Venez voir celui à qui a raconté toute ma vie. » Elle en a oublié son besoin physique d'aller chercher de l'eau. Elle a reçu cette eau vive dont Jésus parle et elle va chercher les autres pour qu'ils puissent boire. Et Jésus, il n'y en a rien à faire de nos nationalités, de nos origines, du contexte dans lequel on a grandi. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Lui, il est prêt à toucher toute nation, tout peuple, homme, femme, peu importe qui on est, d'où on vient, ce qu'on a fait. Jésus, il veut toucher tout le monde. Ensuite, je m'attarde sur ce que Jésus lui dit. Et Jésus lui dit ça, il lui dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et le fait de recevoir cette eau qui soit après en nous une source d'eau vie, qui jaillira jusque dans la vie éternelle, c'est juste conditionné au fait de boire. Et c'est tout, en fait. C'est si tu bois, alors tu pourras recevoir cette eau, et alors cette eau sera en toi une source. Et c'est l'unique condition. Et c'est quelque chose de vrai, de véritable et d'exact. Parce que par exemple, dans Ésaïe, chapitre 48, verset 21, mais c'est pas besoin de, il n'y a pas besoin de le prendre, il est dit, « Ils n'auront pas soif dans les déserts, il fera jaillir pour eux l'eau d'un rocher et l'eau coulera. » Dans Osée, il est dit, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, c'est la pluie du printemps qui arrose la terre. » Zacharie, par exemple, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » C'est quelque chose qui a été annoncé et Jésus l'annonce à son tour. Et c'est encore véritable pour aujourd'hui. C'est exact, c'est à perpétuité, c'est comme ça avec Jésus. Si tu bois l'eau qu'il veut te donner, alors tu n'auras plus soif. Et donc ça nécessite une action, il faut boire. Et si vous regardez en fait la Samaritaine, en fait, le puits se trouvait un peu hors de la ville. Donc, elle a dû marcher, elle était avec sa cruche. Et c'est ça qui a occasionné la rencontre avec Jésus. Et en fait, on doit tous, dans nos vies respectives, occasionner cette rencontre avec Jésus. Et il y a des choses, ça dépend de nous, c'est notre choix. C'est notre choix d'aller boire ou non l'eau que Dieu veut donner, que Jésus veut donner. C'est notre choix ou non, dans la vie de tous les jours, dans tout ce que j'ai dit, tous ces étouffements, tout notre train-train quotidien, c'est notre choix en fait, et c'est notre action, ça dépend de nous pour aller boire cette eau. Ça dépend pas de Jésus, lui Jésus il est là, il est assis sur le puits, il est assis à côté de toi, il veut te donner cette eau, mais c'est toi qui dois faire le choix de boire cette eau. Et parfois malheureusement on attend de boire cette eau quand on est étouffé, quand on est dans le désert. Parce que l'être humain, là aussi, est fait comme ça. On ne sait pas faire autrement. Quand on est bien, tout va bien, on se sent bien, donc on ne va pas voir Jésus. Mais lui, Jésus, il dit, tu m'as un peu oublié. Et la parole, dans la Bible, c'est dit, je les amènerai au désert afin de parler à leur cœur. La Bible dit aussi, je déchirerai l'enveloppe de votre cœur. Et parfois, Dieu laisse les circonstances, nous laisse marcher dans ce désert et il nous dit, mais quand est-ce que tu vas lever les yeux vers moi pour que je puisse t'abreuver? La Bible dit, si tu marches dans le désert, tu n'auras même pas soif. Je ne sais pas si vous imaginez le désert, si on est en plein désert, mais c'est impossible, on est censé crever de soif. Mais lui, Dieu, il dit quoi? Il dit, lève les yeux vers moi et bois cette eau. Et même dans le désert de ta vie, dans les circonstances de ta vie, tu seras capable de marcher parce que je t'ai abreuvé. C'est des choses qui sont surnaturelles. Et ce matin, j'ai envie de mettre aussi une vigilance. Comme je disais, n'attendons pas les déserts, n'attendons pas les étouffements. Et soyons vigilants et disciplinés pour nous abreuver tout le temps. Parce que sinon, de toute façon, la vie nous rattrape, le monde nous rattrape. Tous les jours, quand on va au travail, quand on fait plein de choses autres que d'aller à Jésus. Et finalement, on aurait besoin d'être perfusé constamment de l'eau de Jésus. Parce que de toute façon, c'est vital pour nous. C'est vital parce que le monde ne nous attend pas. Le monde vient et nous écrase avec ses valeurs, nous écrase avec le rythme qu'il nous impose. Mais c'est notre choix et c'est notre responsabilité d'aller vers Jésus, de boire et de prendre ce temps comme la Samaritaine d'aller au puits. Alors ce matin, peut-être que tu es comme la Samaritaine. Tu n'as pas encore rencontré Jésus comme la Samaritaine l'aura rencontré à ce puits. Et tu as envie en fait de faire cette rencontre avec Jésus. Tu as envie d'avoir ce toucher avec Jésus. Et bien si tu as envie d'avoir ce toucher avec Jésus, d'avoir ce repère dans ta vie où malgré tes échecs, tes faiblesses, tu vas pouvoir aller boire cette eau vive qui sera ensuite une source de vie pour toi. Alors au nom de Jésus, tu te lèves et tu t'avances et on priera pour toi. parce que c'est ton choix et c'est ta responsabilité ce matin de faire ta rencontre avec Jésus. Personne d'autre peut le faire à ta place. Ensuite, je vais appeler tous ceux qui sont étouffés et qui sont dans le désert aride. Parce que Jésus, ce matin, il veut vous donner à boire. Et là aussi, c'est dans l'autorité de Jésus que je vous demande de vous lever comme la Samaritaine et de venir devant et de boire cette eau, de prendre le temps de boire cette eau, de prendre le temps de boire cette eau qui va vous rafraîchir, qui va vous désaltérer, qui va vous faire du bien. Et comme je disais aussi, puisqu'il ne faut pas attendre les étouffements de la vie, puisqu'il ne faut pas attendre les déserts, et bien ce matin, là devant, c'est quiconque qui veut boire de l'eau de Jésus qui se lève et qui s'avance. Mais c'est votre choix, c'est votre responsabilité. Et n'attendez pas aussi ceux qui, où vous avez encore des difficultés dans votre vie avec un péché, ben c'est pas avec vos raisonnements et vos forces que vous allez vous en sortir, et ça je vous le garantis, c'est sûr à 100%. Par contre, si vous levez les yeux vers Jésus, il vous donnera la force d'abandonner ce péché-là. Il vous donnera la force de vivre comme il faut avec lui. Mais ce n'est pas en vous appuyant sur vos propres forces, en vous appuyant sur vos propres raisonnements, que vous allez savoir abandonner le péché de votre vie. C'est en levant les yeux vers Jésus. Parce que Jésus, il savait très bien l'état de vie de la Samaritaine, mais il ne s'en est pas écarté. C'était une Samaritaine, il allait choquer tout le monde, il est resté à côté d'elle. Et Jésus, ce matin, dans ton péché, il te dit « Lève-toi et viens, et je te donnerai cette eau qui t'aidera à faire les bons choix pour ta vie. » Donc, je vous demande, de ceux qui veulent se lever, qui veulent faire ce choix de vous lever, et bien, vous vous levez et on va prier, on va demander à Dieu et à Jésus cette eau rafraîchissante, cette eau qui désaltère, cette eau qui nous fait du bien, qui nous permet de vivre dans ce monde et de faire la différence. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ouais, Seigneur, comme la Samaritaine ce matin, on veut faire le choix de venir à toi et de rester avec toi. Tu as déjà parlé à nos cœurs ce matin, mais nous te disons que nous voulons être abreuvés de toi, Jésus. Nous voulons être abreuvés de toi afin de pouvoir marcher dans ce monde, afin de pouvoir faire face à toutes ces luttes, à tous ces combats. Nous nous attendons à toi, Jésus, ce matin. Que tu puisses te révéler comme ce puits, c'est Jésus, comme ce puits qui vient nous désaltérer. Ah, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Tu...